RMC, After Paris,
François Pinet.
After Paris, épisode 32, à retrouver en podcast sur l'appli RMC, sur toutes les plateformes d'écoute, à retrouver également sur YouTube, bien sûr. Merci à tous de nous regarder. Épisode spécial, Ousmane Dembélé, le ballon d'or qui a inscrit un doublé sur la pelouse d'Anfield en quart de finale de Ligue des Champions. On va se poser plein de questions au cours de cette émission. Est-ce qu'il peut légitimement viser un deuxième ballon d'or? Est-ce qu'il vous surprend encore? Est-ce qu'il a encore de la marge? À quel niveau vous le situez dans l'histoire du foot? Est-ce que le PSG doit tout faire pour le conserver la saison prochaine? Et puis, on va parler évidemment des Bleus et de la Coupe du Monde. Pour répondre à ces questions, Julien Taxis. Salut Julien.
Salut François, salut l'After Paris.
Jean-Louis Tour était en file, il est avec nous. Salut Jean-Louis.
Salut François, salut Julien, salut tout le monde.
Très heureux de te retrouver pour cet épisode.
Je suis très content d'être là parce que la dernière fois que je suis venu, j'ai quand même fait une brillante analyse en disant que tirer de Chelsea, c'était catastrophique pour le PSG parce qu'ils allaient mettre du rythme comme Monaco avait fait. Donc voilà, j'espère sortir une analyse aussi bonne encore aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on t'a pas rappelé d'ici là. On est ravis de te retrouver en tout cas. Pour parler d'Ousmane Dembélé, l'auteur d'Ousmane Dembélé, le virtuose qui va sortir le 22 avril aux éditions Talent Sport est avec nous, c'est Nicolas Guetlif. Bonjour Nicolas.
Bonjour François, bonjour à tous. Bonjour
Nicolas. Salut Nicolas.
Alors dans ton livre Apparaître, c'est évidemment la trajectoire de ce jeune homme du quartier de la Madeleine à Évreux et jusqu'au Ballon d'Or. On parle de Rennes, on parle du Barça, avec beaucoup de témoignages de ceux qui l'ont côtoyé lors de ce parcours particulier. Bah, d'abord Nicolas, une première question, c'est un personnage évidemment à part, Ousmane Dembélé, et toi quand tu as écrit ce livre, est-ce que tu t'es dit en fait un Ballon d'Or à 28 ans c'est finalement pas normal, il aurait dû l'avoir avant?
Il aurait dû l'avoir avant, je ne sais pas, parce qu'en fait Ousmane Dembélé, il a cette facilité à se transformer un peu comme un papillon depuis sa chrysalide, et c'est vrai que il a pris du temps, et il a surtout mis du temps à comprendre ce qu'était son métier de footballeur. Lui, il était là sur le terrain pour prendre du plaisir, et voilà, il a fallu une certaine maturité pour qu'il envisage de devenir un grand champion, et ça, je pense que évidemment avec l'âge, ça a facilité la chose, mais je pense qu'il n'était pas programmé pour être ballon d'or à 22 ans.
Ouais, alors que c'est vrai quand même, on parle de son talent pur quand il a découvert le foot à Évreux, et on le lit dans ce livre. On va parler de tout ça, de cette trajectoire bien sûr d'Ousmane Dembélé. On va revenir quand même sur ce match à Liverpool qui montre ce nouveau Dembélé. Jean-Louis, il a à nouveau répondu sur le terrain parce qu'il avait été un peu critiqué après le match aller. On a vu d'ailleurs des célébrations qui vont peut-être devenir iconiques s'il y a une nouvelle victoire en Ligue des Champions. Bref, on sent que ce joueur-là, il ne passe pas à côté des matchs deux fois de suite, désormais.
Ça, c'est vrai, tu as raison là-dessus, sur l'efficacité en tout cas. Parce que moi, je trouve que c'est la grande force du Dembélé nouveau, de ce joueur mature, c'est qu'il peut ne pas marquer, il sera toujours utile à l'équipe. Ce n'est pas ce genre d'avant-centre qui ne sera jugé que sur
ça. Ça avait été tout le débat la semaine dernière entre nous,
Victor
Paris. Oui, parce que certains, ils voyaient un 4 sur 10, d'autres 6 parce qu'il avait été, malgré le manque de réussite, pour moi, il avait été très influent au match aller.
J'aurais été d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, quand c'est comme ça, je pardonne à un attaquant le manque de réussite parce qu'il va t'aider dans le jeu. Déjà, il a une position quasiment de meneur de jeu reculé. Ouais. En plus de ça, il déclenche les pressings. C'est le leader offensif, donc il montre la voie, il montre l'exemple à tout le monde. Donc, même dans des matchs où il rate un peu, bon, bien sûr, si tant est que ce soit pas la balle de but unique que tu auras dans le match, etc. Hein, on dit ça parce qu'à l'arrivée, le PSG a gagné aussi. Mais je pense qu'il a de quoi sauver ses matchs quand il n'a pas l'efficacité. Et on a eu aussi, par contre, la version totale où là, tout a bien marché à Liverpool, où il y a vu le travail et l'efficacité en plus.
Et en plus, le côté leader, et c'est vrai qu'on en parlait aussi dans ce podcast avant le match contre Liverpool et puis après le match aller, on a vu des images d'ailleurs du diffuseur Canal+, qui montrait, même au cœur de la tempête, quand il y avait les vagues rouges, Dembélé vouloir remobiliser ses hommes. C'était pas forcément inné chez lui. En tout cas, c'est pas l'impression que ça donnait au début de sa carrière. Et là, bon, pour le coup, c'est lui le patron, quoi.
Ouais, mais j'ai bien aimé la métaphore voilà, du caméléon, de cette chrysalide qui est devenue papillon. Parce
c'est
que
plus c'est un papillon qui se transforme.
Oui, exactement.
Mais il change de couleur.
Mais c'est vrai que Ousmane Dembélé, l'image que l'on a eue pendant plusieurs années, c'est celle du type sympa dans le vestiaire, marrant, Winchester, tous ces trucs-là. Mais c'est devenu, il est passé du mec sympa au mec influent, finalement, dans le vestiaire, avec un véritable charisme. On reparle souvent de sa prise de parole après la défaite à Rennes, qui, je pense, voilà, a pesé aussi sur le scénario de la saison du Paris Saint-Germain. C'est une vraie métamorphose, une vraie évolution chez Ousmane Dembélé. Et voilà, il faut que ça continue, y compris en équipe de France avec le PSG et avec les Bleus.
Est-ce que ça, on peut dater, Nicolas, cette métamorphose ? Est-ce qu'il y a un moment clé, peut-être, dans sa vie ou dans sa carrière, qui permet de dire qu'il a gagné en maturité, qu'il n'est plus seulement le Ousmane Dembélé qui prend du plaisir sur le terrain ?
Je crois que son arrivée au PSG et puis après le départ de Kylian Mbappé au Real, où là on lui a dit on te donne les clés du camion. Alors au début, c'était pas évident du tout. Mais Luis Enrique y a cru, son implication n'a fait que grandir, et il est devenu un leader, je ne dirais pas contre nature, mais il y a un moment où il a tilté, il a compris que oui, il devait prendre de la place dans ce vestiaire, et pas seulement par des gestes un peu dingues, et voilà. Donc là oui, il a fini par prendre du poids au PSG, et vous aurez remarqué contre Liverpool, il aurait pu s'écrouler, hein, comme on l'a vu disparaître par le passé avec le Barça, où il tentait 2-3 gestes, et puis on ne le voyait plus parce que ça ne marchait pas. C'était très irrégulier au niveau des performances. Mais là, il loupe des occasions au match aller. Il loupe une énorme occasion en première mi-temps à Anfield. Et finalement, il marque ses deux buts en fin de match, ce qui est aussi quelque chose de nouveau depuis quelques mois pour lui.
On peut aussi, il y a eu un autre virage aussi dans sa carrière un peu plus tôt. Là évidemment, hein, la succession de Mbappé, c'est ce qui le fait devenir Ballon d'Or vraiment. Mais il y a eu une bascule aussi au Barça, au milieu de sa période au Barça, où là il y a eu prise de conscience sur le travail invisible, sur ce qu'il a dû mettre en place pour vraiment passer en joueur de haut niveau. Je dis ça parce que nous, à l'époque, dans Rotten sans flamme, on avait Mathieu Bonnemer qui intervenait souvent, qui vient d'Evreux aussi, comme Ousmane Dembélé. Ils sont très proches. Dembélé était au jubilé de Mathieu Bonnemer en 2022 par exemple, et il nous racontait qu'il y avait beaucoup ça, une vraie prise de conscience dans la période barcelonaise, sans laquelle il n'y aurait pas eu toute la suite et le Ballon d'Or.
Il s'est entouré d'un préparateur physique et d'un kiné. Enfin, voilà, il est devenu professionnel. Et puis, ce n'est pas lié au football, mais la naissance de sa fille a fait aussi que il y a eu une résonance dans sa tête aussi.
Il devient plus mature quand on devient papa. Et ça, c'était en 2022.
Et juste sur le côté leader, il est leader par l'exemple aussi, de par tous les efforts qu'il fournit. Et c'est ça qui fait aussi qu'Ousmane Dembélé, lorsqu'il rate des occasions, on ne peut pas lui enlever ça sur l'ensemble de la double confrontation. Il a énormément pressé. Il y a eu des images qui m'ont rappelé un petit peu la finale de la Ligue des Champions hier sur Mamardashvili. Donc, c'était pas forcément moi aussi un joueur que je voyais avoir tenir ce rôle de pressing, de mec un petit peu affamé.
Il a toujours été l'adjoint dans des équipes avec
certains autres, suivez mon regard, n'ont pas pris ce virage et ne deviennent pas des leaders par l'exemple.
C'est vrai, et je pense, je sais pas s'il en avait prévu d'en parler, mais il a une personnalité qui fait que dans un vestiaire tout va bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas calculateur, il est assez spontané, c'est un bon mec globalement. Je reviens à mon exemple d'Evreux, mais pour aller faire un match avec ses potes au mois de juin, juste après la trêve internationale, et peu importe avec qui il joue, il fait plein de matchs dans la journée, et c'est un rendez-vous qui fait une fois par an à revenir dans sa cité, là où il a grandi et tout. Je pense que pour moi, c'est des trucs qui montrent que c'est un bon gars, et à l'arrivée dans un vestiaire, c'est reconnu. On a aucun exemple de joueurs qui ont été en conflit avec Dembélé, et il a 28 ans, donc ça veut dire aussi que c'est plus facile d'être leader par l'exemple, justement, qu'on a aussi ce comportement-là dans le vestiaire.
Alors, il y a cette phrase de Luis Enrique, d'ailleurs, on peut la lire dans ton livre, Nicolas, mais Dembélé est un leader sur la pelouse avec ses buts et avec son caractère pour presser. Il montre à l'équipe qu'il est toujours prêt à presser le défenseur, le gardien sur chaque action, ça c'est ce qu'on disait. Si le leader fait ça, c'est un exemple. Je suis heureux d'avoir un Ousmane à ce niveau. Luis Enrique, il a apporté évidemment beaucoup sur ce rôle-là à Ousmane Dembélé, mais aussi tactiquement. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu.
D'ailleurs, attends, juste sur le rôle et le pressing, ouais. Pour moi, Luis Enrique, la fameuse discussion qu'il a avec Mbappé, ouais, pour lui dire de courir, ça n'a jamais fonctionné avec bien Mbappé, sûr. Mais c'est tout ce qu'il explique à Mbappé, c'est ce que fait Dembélé depuis.
Tu seras un leader, tu seras Michael Jordan quand tu feras les efforts pour les autres.
Tout ça, ouais, ça a marché sur Dembélé, en
c'est
fait.
C'est vrai. Et donc, sur le côté tactique aussi, la façon dont il l'a replacé, alors on en a beaucoup parlé, on l'a évoqué, bien sûr. Désormais, il est beaucoup plus dans l'axe, il est plus proche du but aussi, mais il a aussi ce rôle de meneur, il est assez libre. Enfin bref, il lui laisse une totale liberté sur le
fond
de l'attaque.
C'était quand même un pari assez dingue de mettre numéro 9, le mec qui ratait toutes les occasions. Et finalement, ça a marché de manière totalement inattendue, parce qu'il lui laisse une liberté totale, parce que aussi Ousmane Dembélé lui rend bien en faisant les efforts. Là où moi, il m'a toujours frustré sur le côté droit, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, avec le Barça, avec l'équipe de France, il y avait ses accélérations, ses coups de rein incroyables, mais la finition pêchait énormément. Là, il lui a trouvé un rôle qui n'est pas que celui de numéro 9, qui est celui aussi de pourvoyeur de ballon, de joueur qui redescend, qui vient désorganiser l'adversaire. Enfin, il lui a trouvé un rôle d'électron libre, de buteur, et qui lui permet d'exprimer vraiment tout son talent, parce qu'il continue aussi à faire des différences.
Ouais. Pour moi, c'est la vraie trouvaille de Luis Enrique, effectivement, ce repositionnement-là. Plus encore que le rôle d'Hakimi, des latéraux, même si, bon, bravo aussi pour ça, mais... entre guillemets, on l'a déjà vu ça, rendre des latéraux très offensifs. Là, effectivement, Dembélé, le replacer là, alors que avant le replacement, on est quand même dans une phase où on a l'impression de le voir faire toujours la même action, partir de son côté, percuter, ça marche pas, il tire au-dessus, il est maladroit. Et ce replacement, effectivement, lui a donné donc une épaisseur dans le jeu, un volume très important. Et je pense que le replacement était important, mais aussi sa façon de comprendre certaines choses dans le foot, certains déplacements, certaines permutation avec d'autres joueurs proches de lui. Ça aussi, c'est le système Luis Enrique qui lui a permis ça et qui fait qu'il est le joueur aujourd'hui.
Nicolas Guetlif, justement, sur ce joueur, Ousmane Dembélé, qui a beaucoup évolué pendant toute sa carrière. Hein. On parlait d'Evreux, bien sûr, ensuite Rennes, le Borussia Dortmund, le Barça. Mais j'ai l'impression que jamais un coach n'a compris aussi bien Dembélé, ou alors, en tout cas, il n'y a jamais eu une osmose aussi grande, même si avec Tourelle, ça s'est quand même très bien passé à Dortmund, notamment. Hein, c'est raconté dans.
Oui, complètement. Mais ce qui est intéressant et ce qui est amusant, c'est que Roland Courbis, au début au Stade Rennais, oui, et Philippe Montagnier également, ont compris que ce joueur pouvait apporter du déséquilibre, et surtout qu'il pouvait jouer à n'importe quel poste offensif. Et c'était sous-jacent pendant plusieurs saisons, et c'est ressorti parce que Luis Enrique a senti le bon coup. Mais depuis le début, les entraîneurs, Roland Courbis, dès le départ, quand il l'a vu, il ouvrait des grands yeux, et surtout, il lui a dit mais tu tires avec quel pied, en fait. Okay. Et c'est aussi la force d'Ousmane Dembélé, c'est qu'il est illisible au niveau des défenseurs. Et Roland Courbis l'a déplacé à gauche.
Il le voyait plutôt d'ailleurs à gauche. Et il nous en parlait beaucoup, Roland, plutôt
ouais,
comme un.
Il l'a beaucoup fait jouer dans l'axe aussi, en deuxième attaquant.
Effectivement. Mais il
était
plutôt,
fier de
c'est
dire.
C'est dommage de le mettre à droite, parce que moi je le vois plutôt à gauche ou dans l'axe.
Exactement. En tout cas, il dit c'est pas à droite que je le mettrais.
Exactement.
Mais il était ravi d'être le premier entraîneur à l'avoir installé vraiment dans l'axe, là où il gagnera son ballon d'or.
Et le côté ambidextre parfait aide énormément à cette polyvalence. Il y a qu'à revoir son but qu'il met en field, ses pieds gauche, on a l'impression que c'est le pied droit. Je me souviens de cette séquence, il est tout jeune à Rennes, on lui demande quel est son meilleur pied, même lui a du mal à choisir.
Alors tout de suite, on continue, After Paris, deuxième partie, on va parler évidemment de la suite de sa carrière, est-ce que ça sera au PSG ou non, est-ce que le PSG doit tout faire pour le conserver, l'équipe de France au programme bien sûr aussi de cette After Paris spéciale Ousmane Dembélé. Deuxième partie d'After Paris avec Jean-Louis Tour, Julien Taxis, Nicolas Guetlif qui est notre invité auteur d'Ousmane Dembélé, le virtuose, qui va sortir le 22 avril prochain aux éditions Talent Sport. On va parler des Bleus dans la continuité de ce qu'on venait de dire justement, parce que c'est une question qui va se poser pour la Coupe du Monde. C'est une question que j'ai envie de poser à Jean-Louis, parce qu'on a eu ce petit débat aussi dans la rédaction et même à l'antenne.
On a travaillé là-dessus.
Qui a vu les matchs d'Ousmane Dembélé avec les Bleus, et notamment le dernier au mois de mars contre le Brésil. Est-ce que on peut retrouver chez les Bleus le Ousmane Dembélé que l'on a au Paris Saint-Germain. Ça va être évidemment une des questions et une des clés peut-être de la réussite de l'équipe de France.
Alors, bah, il faut déjà cadrer un peu cette question parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc, c'est est-ce qu'on entend le positionnement ? Est-ce qu'on entend la liberté qu'il peut avoir au PSG ou est-ce qu'on entend, je ne sais pas, une position d'avant-centre comme il a au PSG ? Moi, tout ça, je pense qu'il ne l'aura pas de la même façon en équipe de France. Donc, je en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu, notamment contre le Brésil, donc dans ce fameux match un peu qu'on a en référence ces derniers temps où on avait vraiment le quatuor offensif qui était aligné, bah, je voyais des choses assez modernes chez le duo Ekitike Mbappé. Ils permutent, ailier gauche, avant-centre, les deux savent jouer les deux postes, donc ils ont permuté régulièrement. Et je sais que dans la conférence de presse après, Deschamps disait mais j'autorisais même la même liberté de l'autre côté avec Olise et Dembélé. Or, Deschamps dit bah, ils ne l'ont pas pris cette liberté-là, voilà. Et c'est vrai que Dembélé est quand même beaucoup resté sur ce côté droit, en venant travailler un peu plus dans l'axe que d'habitude, c'est vrai. Mais je pense que c'était dû à la position de Malo Gusto, qui était pour le coup un latéral droit beaucoup plus offensif que les Koundé. Donc pour lui libérer le couloir, Dembélé venait beaucoup dans l'axe. C'est pour ça qu'on a eu l'impression qu'il changeait un peu son jeu. Mais pour le reste, j'ai vu quand même quelqu'un de très discipliné qui se replaçait beaucoup sur son côté droit, comme à la Coupe du Monde 2022, où je trouvais qu'il le faisait trop d'ailleurs et qu'on le perdait offensivement. Donc je pense qu'il y a encore du travail. Je suis pas définitif en disant on verra jamais le Dembélé du PSG avec l'équipe de France, mais je pense quand même que c'est un sujet encore à gérer.
Il y a deux freins quand même. Il y a à la fois Deschamps qui demande peut-être pas la même chose que Luis Enrique à Dembélé, et puis la deuxième frein, c'est la présence de Kylian Mbappé sur le terrain.
Oui, c'est pour ça qu'à mon avis on n'aura pas le même. Ouais. Mais après, je pense quand même qu'on peut avoir un joueur beaucoup plus impactant que ce qu'on a connu en 2022, parce que maintenant il est Ballon d'Or et rien que la passe qu'il fait à Mbappé contre le Brésil en profondeur, bah ça c'est un truc qu'il ne peut pas faire forcément tout le temps au PSG parce qu'il n'a pas cette référence-là de neuf qui prend la profondeur, parce que c'est lui le neuf, voilà. Qui peut avoir un peu plus en équipe de France, et il a aussi quand même une qualité de passe, une qualité d'œil pour faire ce genre de choses.
Julien,
j'y crois pas du tout, mais pour moi Ousmane Dembélé devrait être le numéro 9 de l'équipe de France voilà, à la Coupe du Monde, ne serait-ce que parce que voilà, depuis maintenant un an, si l'on compare Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans les grands matchs en Ligue des Champions, ça commence à faire beaucoup, hein, Dembélé, tous ces buts décisifs qu'il met depuis...
Tu le mets où Mbappé là?
Je le remets à gauche. Ah, il était très bien, mais j'y crois pas du tout parce que ça fait maintenant deux ans que Kylian Mbappé joue dans l'axe au Paris Saint-Germain, au Real et en équipe de France. Bon, et Kitike n'est plus là, qui pouvait aussi être une solution au poste de numéro 9. Voilà, Olise dans l'axe, Mbappé à gauche, Dembélé et puis après un Barcola, un Doué à droite. Ça me va très bien, mais j'y crois pas.
Ouais, je sais pas. Le truc en fait, c'est qu'en équipe de France, le rôle sera forcément différent. Et je pense que si tu le mets comme au PSG, ça a trop d'implications autour en fait. Moi, ce qui s'est passé contre le Brésil, avec un côté gauche, donc Mbappé et Kitike, ils se partagent le travail. En imaginant qu'avec la blessure des Kitike, soit Barcola qui remplisse ce rôle, ça me paraît assez cohérent. J'ai trouvé que c'était pas mal d'avoir un Dembélé de l'autre côté, qui soit ce milieu de terrain supplémentaire, capable de venir parfois au niveau de Tchouaméni ou de Rabiot pour créer le jeu un peu plus. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit du PSG.
Et puis il n'y a pas les mêmes milieux de terrain. Enfin, Rabiot,
aussi, voilà,
Benet,
c'est pour ça.
Pas Vitinha.
Moi, honnêtement,
et
j'ai
Neves.
Fait le deuil depuis un moment. Hein.
Je pense que tu as raison, mais bon, voilà. Moi, Dembélé numéro 9. Franchement, depuis un an, c'est le meilleur numéro 9 français dans les grands matchs.
Mais je pense qu'il peut être tout aussi énorme en
mais,
jouant un
mais
peu
là,
plus bas.
Mais là où je te rejoins aussi, c'est que j'ai pas envie de le revoir en mode Matuidi 2018, ailier latéral gauche.
Alors, en plus, il a quand même beaucoup de choses à jouer sur cette Coupe du Monde, parce qu'en équipe de France, il y a eu des déceptions. D'ailleurs, Nicolas Guetlif, dans ton livre, tu écris chez les Bleus, qu'il côtoie depuis une décennie pratiquement, il possède peu de matchs référence, pourtant la clé d'une réussite complète sur le plan international. Et donc, la Coupe du Monde lui offre cette perspective d'être au niveau des meilleurs. 58 sélections, 7 buts. Il n'a jamais marqué, ni en Coupe du Monde, ni à l'Euro, avec l'équipe de France. Champion du Monde en 2018, mais il traverse cette Coupe du Monde, c'est vrai, comme un remplaçant, même s'il débute
contre l'Australie. Et le match contre l'Australie,
ça ne se passe pas bien. Et ensuite, il ne jouera même pas en demi et en finale.
Normalement, cite le France-Angleterre dans les références.
C'est vrai.
Oui, le match
avec
Mbappé où il roule sur l'Angleterre.
Et en 2022, il est titulaire, mais on se souvient de ton match raté contre l'Argentine en finale.
Et on se souvient du pénalty concédé, parce qu'il joue presque comme un défenseur.
Mais c'est vrai que ce match au Stade de France avec Mbappé, c'est la première fois d'ailleurs qu'ils sont associés ensemble. C'est un festival offensif en juin 2017, on s'en souvient. Et Nicolas, tu en parles dans ton livre, mais toi aussi, tu es frustré, tu te dis qu'en équipe de France, on doit avoir un autre Ousmane Dembélé.
Il y a un goût d'inachevé, hein, forcément, mais évidemment, l'avenir nous dira comment ça se passe. Alors déjà, il faut qu'il soit à 100% physiquement, après une longue saison. Et puis, je pense qu'il va vouloir, si effectivement il est au top, il doit être piqué dans son amour propre, et à un moment, il va vouloir prouver sur le terrain qu'il peut apporter quelque chose à l'équipe de France comme il l'apporte au PSG. Donc, moi, j'y crois. Après, effectivement, comme vous en parliez tout à l'heure, c'est compliqué parce que là, il y a embouteillage devant, quoi. Hein. Entre Mbappé, Barcola, Olise, c'est vrai qu'on ne sait plus très bien où le placer. Mais je me dis aussi que avec son statut de Ballon d'Or, il peut quand même prouver à Didier Deschamps qu'il a sa place.
Ouais, mais je l'imagine pas dans sa personnalité arriver et dire bon là maintenant je suis Ballon d'Or, vous allez faire l'équipe en fonction de moi. Ça j'y crois pas. Et je pense que justement c'est là où il va être intelligent et se mettre au service du collectif comme il a souvent fait.
Bah comme il le fait au PSG, c'est peut-être ça d'ailleurs l'apport aussi du Paris Saint-Germain, c'est savoir intelligemment mettre se placer et se mettre au service de certains autres. Il nous reste du temps quand même pour parler aussi de son avenir, parce qu'on a quelques infos RMC Sport à vous donner concernant la prolongation de contrat. On rappelle que Ousmane Dembélé est en contrat jusqu'en 2028, qu'il est en négociation avec son club pour prolonger, pourquoi pas, les négociations qui, d'après les informations de Fabrice Hawkins, se poursuivent en bonne intelligence entre les deux parties. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ça peut prendre du temps, mais les deux camps restent sereins. Le joueur est évidemment très apprécié au club. Les dirigeants sont satisfaits de ce qu'il apporte sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, visiblement, il y a une volonté du PSG pour le garder. Dembélé, il aimerait bien continuer. On sait aussi qu'il a un salaire le plus important de la Ligue 1 et le plus important du vestiaire, 1,5 million d'euros bruts mensuels. Il y a une grosse revalorisation qui a été demandée par ses agents, évidemment, suite notamment à son Ballon d'Or. Mais au PSG, on sait aussi que maintenant, on fait attention à l'équilibre du vestiaire à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut très clairement tout faire pour le garder quand on voit les performances à nouveau de Dembélé comme cette semaine face à Liverpool ?
Pour moi, ça doit être la priorité absolue. De tout faire pour le garder. Alors, j'ai bien en tête les contraintes, le salary cap, il ne faut plus faire n'importe quoi, etc. Sauf que là, c'est un cas exceptionnel. C'est-à-dire que l'apport sur le terrain, ça fait 20 minutes qu'on en parle. L'importance du joueur dans le vestiaire, on en a parlé également. Et la force du symbole, c'est le premier ballon d'or remporté après une victoire en Ligue des Champions du PSG. Donc, ballon d'or gagné avec le maillot du PSG, c'est pas rien. Pour moi, il va finir capitaine du PSG. Du coup, une fois qu'on a dit tout ça, bah, tout doit être fait pour le prolonger. Et je préfère entendre le début des infos, ce que disait Fabrice, ça discute en bonne intelligence, que les déclarations de Nasser Al-Khelaifi. On a un salaire cap, vous savez comment ça fonctionne. Ça, ouais. Sous-entendu, bon, bah,
on bougera pas, on fera pas d'effort.
Voilà.
Tout faire
et à son âge aussi, j'ajoute aussi l'âge qui est important.
Je sais que Julien, on fait souvent ce podcast ensemble After Paris. Alors c'était avant en fait, ces matchs contre Liverpool. Peut-être que tu as changé d'avis.
J'ai pas changé de position sur le tout faire.
Tu disais qu'il fallait pas forcément tout faire.
Tout faire, non, parce que voilà, il y a une nouvelle politique, une nouvelle philosophie mise en place et qui est complètement voilà à l'inverse de ce que l'on a connu avec les Messi.
Mais même sur ce que tu vois là ces derniers matchs,
non,
tu vois bien
c'est
quand même le joueur qui fait la différence.
Je suis sûr que ce que tu disais, c'était, enfin, je suis sûr, je te fais peut-être un procès d'intention, mais c'était je pense qu'il ne refera pas la même saison
exactement,
une deuxième fois.
Exactement. Ouais. Et c'est là, et c'est
il est
là,
en train non, de mais, prouver le contraire.
Voilà. Non, mais c'est là où les infos de Fabrice Hawkins voilà, sont intéressantes et positives. C'est que les deux camps sont en train de se rapprocher, qu'on a trouvé une forme d'intelligence dans cette négociation, que c'était peut-être parti trop du côté d'Ousmane Dembélé, que là, on va trouver...
Mais parce qu'au PSG, ils se rendent peut-être compte de l'importance du joueur.
Parce que Fabrice nous avait dit de manière très logique, finalement, que ces négos, elles allaient aussi être énormément influencées par ce qui se passait au printemps. Et là, il est en train de reconstituer le puzzle de la saison dernière. Et on est en train de se dire, moi, ce que je ne me disais pas, qu'il va peut-être pouvoir voilà, rééditer cette saison-là. Moi, j'étais plus sur... On a vu le prime d'Ousmane Dembélé.
Oui.
Et force est de constater que non. Et c'est là où...
Tu te trompes beaucoup, quand même. Hein.
Sur Ousmane Dembélé, oui. Et c'est là où il est bluffant. Et c'est là où je l'apprécie énormément. C'est qu'il me donne tort assez souvent.
Et c'est vrai que, Nicolas, et j'imagine que c'est pour ça que tu as souhaité écrire ce livre aussi, c'est parce qu'il est déroutant, en fait, ce Ousmane Dembélé, pour beaucoup.
Ah bah, il est déroutant et donc ça en fait un joueur unique. Et je reste persuadé que tant que Luis Enrique sera sur le banc du PSG, Il fera tout pour garder Ousmane Dembélé. Je pense que c'est voilà. Bon après ça peut chapeauter sur d'autres critères, mais je pense que là l'entraîneur espagnol fera tout pour garder son joyau et que il persuadera ses dirigeants de mettre le paquet pour le conserver.
Bon, alors j'ai vu dans ton livre, pardon Nicolas, qu'il y avait un petit quiz à la fin. Donc moi, ça m'a donné une idée, quiz Dembélé.
Ah, c'est quand même.
Trois petites questions très rapides. Nicolas, tu joues pas parce que c'est toi qui connais les réponses. C'est entre Julien et Jean-Louis que ça se joue. Quelle est l'indemnité estimée pour le transfert d'Ousmane Dembélé en août 2023 du Barça au Paris Saint-Germain?
50 millions.
50 millions, il est le plus rapide, Julien Taxis, bravo. Lors de la campagne en Ligue des Champions, la dernière triomphale bien sûr, saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a inscrit 8 buts, mais contre quel club il a marqué le tout premier? Souvenez-vous.
Brest?
Non.
Non, avant.
Avant. Un match déclic.
Mais oui, City.
City oui. Ah voilà, ça fait deux points pour Julien. Il y a une troisième question, si vous voulez.
Oui.
Un peu plus people. Après la victoire en Ligue des Champions contre l'Inter, tu y étais. Tu n'as aucune excuse, Jean-Louis, à Munich. Oui. La petite fille d'Ousmane Dembélé le rejoint sur la pelouse. Elle a un maillot floqué dans le dos. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dessus?
J'en ai aucune idée.
J'ai trois propositions,
Jean-Louis,
si tu veux.
Bah, vas-y, ouais.
Dembouze, bravo ou papa?
Dembouze?
Non. Papa. Nicolas?
Papa.
Et papa, évidemment.
Ouais.
Mais tu étais où? T'as commenté le match, non?
Je faisais juste à l'antenne. Je travaillais. Ouais, c'est vrai.
Bon, voilà. Donc, voilà, vous pouvez lire le livre de Nicolas Guetlif. Et il y a plein d'autres questions comme ça à la fin du livre, un petit quiz. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci,
Ousmane Dembélé, le virtuose aux éditions Talents Sport, sorti le 22 avril. Pour bien sûr tout connaître du parcours de ce Ousmane Dembélé dont on n'a pas fini de parler dans After Paris. Tu reviendras, Jean-Louis?
Bien sûr, avec plaisir.
Merci en tout cas d'être passé. Et puis Julien, à bientôt aussi dans After Paris. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter ce podcast. Et puis la semaine prochaine, soyez au rendez-vous parce que ça sera juste avant un certain PSG Bayern. Donc je pense qu'il y aura pas mal de choses à raconter. Donc soyez là, soyez au rendez-vous d'After Paris la semaine prochaine, à ne pas rater. À bientôt. Salut.
RMC After Paris.